L'émission Un moment pour la Terre est là avec Martine Vallon qui est un invité. Bonjour Martine et bonjour à vous deux.
Bonjour. Oui, donc aujourd'hui, je suis venue avec Thierry Calvo, qui est président de l'AMAPI 04. Donc, il vous présentera son association, qui est une de nos associations fédérées. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des abeilles. J'ai fait une émission la dernière fois sur la biodiversité et l'importance de maintenir cette biodiversité. Et aujourd'hui, c'est plus axé sur les pollinisateurs et notamment les abeilles, bien sûr. Nous savons que les abeilles sont la clé de voûte, enfin, et les autres pollinisateurs sont la clé de voûte de notre sécurité alimentaire. En effet, une alimentation sans pollinisateurs, ça ne peut pas exister, puisque 75% de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs. Et entre 60 et 90% des plantes sauvages ont besoin d'insectes pour se reproduire. Donc, c'est vraiment un des éléments importants. Aujourd'hui, tout le monde sait que la biodiversité, il faut s'en préoccuper. Et tout le monde sait que les abeilles sont en danger et qu'il est nécessaire de les protéger. Donc, j'ai invité aujourd'hui Thierry Calvo, qui est président de l'association des... Allez-y, Thierry. Alors, donc, c'est l'AMAPI 04.
Voilà. Je me présente, Thierry Calvo, je suis bénévole à l'association AMAPI 04.
Qui est l'association des amateurs apiculteurs, voilà. Apiculteurs amateurs.
Voilà, ou apiculteurs de loisirs, c'est plus joli. Donc, je suis là pour parler abeilles. Donc, à notre époque, parce que leur environnement est trop dégradé, par des activités humaines inconsidérées, les abeilles ont de plus en plus de difficultés à survivre seules. Il est essentiel que se développe dans les espaces ruraux et même urbains la présence de colonies d'abeilles auprès de personnes ayant l'expérience et le savoir pour en prendre soin correctement. Jusqu'au milieu du siècle dernier, chaque famille rurale entretenait ses ruches d'abeilles au même titre que son potager, une basse-cour ou un verger. Parce que composés de petits ruchers implantés à demeure pour la plupart, et parce que plus uniformément décimés dans les territoires, cette pratique de l'apiculture d'amateur ou de loisirs, mais qu'on peut aussi appeler familiale, est plus à même de répondre aux besoins de pollinisation de la flore sauvage et domestique.
Alors, c'est vrai que donc l'association des apiculteurs de loisirs qui se développe sur notre département est une des réponses aux besoins de protéger les abeilles, puisque ce qui est l'essentiel dans ces petits animaux, c'est que à la fois ils nous donnent du miel, ils ont donc une production qui est utilisée par les apiculteurs professionnels, mais ils ont aussi un rôle extrêmement important à jouer. Et dans notre démarche qui est favorisons les bonnes pratiques, favorisons ce qui va permettre de préserver la nature et de l'aider à se développer. L'idée du rucher familial, l'idée d'une ruche par famille, quelques ruches par village, est vraiment un des éléments qui fait que chacun peut participer et de façon agréable à cette préservation.
Voilà, justement, au sein de notre association, en constituant un vaste réseau, nous avons à cœur de faire reconnaître cette petite apiculture comme un véritable service de bien public rendu à la collectivité par son rôle bénéfique à la biodiversité environnementale. Notre démarche s'inscrit dans un cadre de préoccupation sociétale bien plus large, on ne peut pas prétendre préserver les abeilles sans préserver leur environnement, qui est aussi le nôtre.
Alors, c'est vrai que, par exemple, on a beaucoup œuvré sur cette question de préservation des abeilles, et notamment pour essayer de supprimer tout ce qui peut les détruire. Alors, c'est vrai que les abeilles sont quand même des animaux fragiles, et donc on viendra tout à l'heure sur ces aspects qui sont tous les pièges et tous les problèmes que peuvent rencontrer les abeilles. Mais parmi ces difficultés, un des plus importants, c'est la question des pesticides. Tout le monde le sait aujourd'hui, les néonicotinoïdes sont grands destructeurs des pollinisateurs et des abeilles. Et on a réussi, donc, à force de lutte, je dirais, de la part des associations de protection de l'environnement, et notamment à partir d'un rapport en 2013 qui avait été effectué par Greenpeace, et d'un cri d'alarme poussé en 2016, on a réussi à faire passer une loi, la loi biodiversité, qui permet aujourd'hui, qui a permis l'interdiction de 5 pesticides extrêmement nocifs. Mais ça a mis longtemps à se mettre en place. Hein. Donc le rapport date de 2013, les grands coups de semonce 2016, la loi qui passe, et puis pas de décret d'application. Bref, on a traîné un peu. Aujourd'hui, c'est interdit, mais avec quelques dérogations encore jusqu'en 2020. Donc il est nécessaire toujours de surveiller les choses et de faire appliquer les lois.
Oui, en parlant des pesticides de type néonicotinoïdes, il faut savoir que ce sont des neurotoxiques pour l'abeille et pour nous. Hein. Donc ce sont à la base des insecticides de type systémique, c'est-à-dire que c'est les semences qui sont roubées, et c'est pendant que la plante va grandir, que l'insecticide va se diffuser dans toute la plante.
Oui, c'est ça.
Et quand on arrive au stade de la floraison, au niveau du nectar que viennent récupérer les abeilles, ou que ce soit au niveau du pollen,
oui.
Et ben, dans ce nectar et dans ce pollen, on retrouve ce fameux insecticide. Donc, sachant que le nectar va devenir du miel, les abeilles vont être nourries avec du miel contenant des pesticides. Et les larves d'abeilles, qui sont nourries à partir d'une bouillie d'élevage composée essentiellement de pollen, qui sont les protéines, ce sont aussi, ils sont nourris aussi à base d'insecticides. Alors tout ça, bien évidemment, vous comprenez très bien que ça peut pas aller dans le bon sens.
Ça peut pas aller dans le bon sens, tout à fait. Alors, on va peut-être faire une pause avant que vous nous racontiez un peu plus sur l'association, un peu plus. Alors, une présentation plus précise.
Je veux, oui, juste dire un mot. Tout à l'heure, j'ai parlé de préserver leur environnement, qui est aussi le nôtre, l'environnement des abeilles. Et je voudrais rajouter que cela passe par des choix de société, par des changements radicaux et urgents de nos pratiques agricoles, notamment, mais aussi de façon individuelle dans notre quotidien, avec, par exemple, la mise en place d'une ruche quand c'est faisable, que ce soit en milieu urbain ou que ce soit en milieu périurbain ou à la campagne. Il y a parmi la centaine de nos adhérents, il y a un gros tiers des adhérents qui vivent en ville. Et il faut savoir qu'en ville, l'abeille se porte bien.
Et oui, elle n'a pas les pesticides.
Voilà. C'est eux qui ont le moins de problèmes, qui réalisent les plus belles récoltes. Oui. Voilà pourquoi. Parce qu'en ville, il y a des jardins, Et quand vous avez un jardin où vous avez mis des fleurs, s'il fait sec, ben, vous l'arrosez. À la campagne, s'il fait sec, on n'arrose pas la colline. Voilà.
Donc, oui. Alors, on évoquera tout à l'heure un peu, effectivement, toutes ces bonnes solutions, toutes ces bonnes pratiques et tout ce qui peut permettre de favoriser la vie des abeilles et le développement des ruches familiales. Donc là, ici, ce petit bruit bizarre, ça s'appelle, c'est le chant des reines. C'est un enregistrement qui a été fait à l'intérieur d'une ruche par, alors je ne sais plus son nom, mais...
Bernard Leclerc.
Voilà. C'est le bruit que vous venez d'entendre, donc le bruit, le chant de la ruche, et donc bizarrement le chant des reines, ça fait un peu le même effet que le chant des baleines, je dirais, quand on l'écoute. Et donc, AMAPI, l'association des apiculteurs, j'aimerais dire, avoir une ruche, c'est sympa, dans l'idée, en théorie, par exemple, moi, je suis allergique aux piqûres d'abeilles. Alors, est-ce que avoir une ruche, ça peut présenter quelques difficultés, quelques dangers
L'abeille, c'est pas un insecte agressif, hein. Du moment que vous n'allez pas les embêter à proximité de leur ruche. Il n'y a aucune raison qu'elle vienne vous piquer. L'abeille, parmi les abeilles, il y a une caste d'abeilles qu'on appelle les gardiennes, dont le rôle est de garder et de défendre la colonie, c'est-à-dire la ruche. Bien évidemment, si vous vous comportez comme un prédateur éventuel abeilles, vont venir se sacrifier... pour la colonie en piquant, hein, mais elle meurt. Hein, voilà.
Oui, voilà. Donc elle pique pas.
Non, absolument pas. D'ailleurs.
Sans raison. Et donc il faut éviter de les énerver, de s'activer, de faire des grands gestes.
Voilà, simplement. Si vous voulez, les prédateurs de l'abeille, c'est facile. C'est essentiellement les oiseaux insectivores. D'accord. Et l'abeille, depuis des millénaires, a fait évoluer sa vision pour se protéger.
Répondre.
Et donc, une abeille qui vole à 25 km heure, s'il y a une mésange qui veut l'attraper en vol, c'est toujours un geste rapide. Et donc, leur vision détecte tout geste rapide. Et si vous effectuez, bien évidemment, un geste rapide à proximité de la colonie, c'est-à-dire devant la ruche, pas à 10 mètres, hein, pas à 15 mètres, hein, l'abeille va l'interpréter tout simplement comme un acte d'agression. Voilà. Et c'est pour ça qu'elles vont réagir. En dehors d'un périmètre de 3-4 mètres autour des ruches, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Il y a plein d'abeilles dans nos parcs, dans les jardins, etc. Oui. Jamais personne qui se fait piquer par les abeilles.
Voilà.
Hein.
Donc il faut arrêter d'avoir peur. Alors, voilà. L'association, racontez-nous.
Donc, les buts d'AMAPI 04. Alors, le premier, c'est sensibiliser les personnes sur le rôle de l'abeille dans le maintien de la biodiversité. Sensibiliser les personnes sur son sort actuel qui lui est réservé. Disparition et effondrement des colonies, faire reconnaître et défendre les abeilles et leur environnement, sauvegarde de notre abeille locale Apis mellifera mellifera, parce que ça il faut le savoir, n'importe qui en France peut importer n'importe quelle race d'abeilles.
Voilà. Oui, alors il y a un gros souci, je crois, sur ces questions-là, parce que effectivement, les apiculteurs professionnels qui ont besoin d'avoir des récoltes importantes et d'avoir des colonies de ruches aussi assez conséquentes, lorsqu'il y a des soucis, puisque là, on sait que, par exemple, dans l'hiver 2017-2018, on a eu un effondrement des colonies d'abeilles énorme, un pourcentage de mortalité qui avoisinait les 35%, je crois. Donc là, évidemment, les professionnels ont dû sans doute rechercher de nouveaux essaims, importer des abeilles. Et donc ça entraîne des difficultés, en fait, avec toutes ces nouvelles races d'abeilles qui sont importées.
Alors, ça vient surtout dans leur mode de gestion de leur cheptel. Il faut savoir que à la fin, la première année de la vie de la reine, elle est très productive. Elle va beaucoup pondre. Ces apiculteurs professionnels, ils vont de mielée en mielée, d'accord ? Et donc, les abeilles, ben, elles sont toujours... Sont toujours très sollicités. Voilà. Donc, de nos jours, c'est passé dans les mœurs chez les apiculteurs professionnels. Une abeille qui a une durée de vie de 4 ans, une reine qui a une durée de vie de 4 ans, eh bien, au mois de septembre, au bout de sa première année, elle est tuée et elle est remplacée par une jeune reine.
Nouvelle. Voilà. Ah oui.
Ça, on ne peut pas le faire avec Apis mellifera mellifera, notre abeille locale.
D'accord.
C'est pour ça que cette race est délaissée par les apiculteurs professionnels essentiellement.
Et pourquoi on ne peut pas le faire alors ?
Ben parce que notre abeille locale est très rustique, très fidèle à sa reine. Et si vous lui tuez sa reine, ben vous pouvez
essayer... La colonie s'arrête. Le essaim se disperse ?
Non, vous pouvez essayer d'introduire une autre reine, elle sera tuée de suite.
D'accord.
Voilà, ça c'est un gros problème
pour les
professionnels.
Oui, okay.
Voilà, c'est essentiellement pour ça qu'ils ont. Bon, ils mettent aussi en avant qu'il y a certaines races d'abeilles qui ne sont pas autochtones, qui produisent un peu plus. Voilà. Mais la nôtre est vraiment très rustique. Il faut savoir que dans son patrimoine génétique, il est très riche. Il est issu de millénaires.
Oui, bien sûr.
D'adaptation à notre territoire.
Hein.
Alors, qu'on nous dise qu'une abeille caucasienne est bien adaptée à son territoire du Caucase, c'est normal. Mais quand on arrive dans les Alpes de Provence, c'est pas le même territoire. Voilà.
Donc aujourd'hui, effectivement, avec les changements climatiques, il peut y avoir d'autant plus d'importance à ce que les abeilles soient bien adaptées localement pour pouvoir faire face à ce qui se produit, peut-être aussi.
Oui, tout à fait.
Que ça ne se rajoute pas.
En plus, le fait de le type de fécondation, enfin, comment se passe la fécondation chez les abeilles, fait qu'il peut y avoir de l'hybridation, il y a de l'hybridation, avec ces fameuses colonies d'abeilles non autochtones, et ça appauvrit la richesse génétique de notre abeille qui a mis, comme je vous le disais, qui a mis des millénaires pour acquérir.
Hein, voilà. Et alors, cette abeille, c'est donc l'abeille, ce qu'on appelle l'abeille noire, c'est ça ?
Tout à fait, c'est notre abeille noire.
Et c'est pas une abeille sauvage, donc ?
Non, c'est...
D'accord. C'est l'abeille qui était traditionnellement dans les ruchers provençaux.
Voilà, enfin, depuis des millénaires, elle a traversé deux glaciations. Donc,
ce qui ne nous arrivera pas.
Voilà. Donc voilà, s'il y a une abeille qui est bien adaptée à notre région, ben, c'est l'abeille noire. Alors bien évidemment, il y a Apis mellifera aussi en Bretagne, hein, puisque l'abeille noire, son aire de répartition géographique, c'est tout l'ouest de l'Europe. Hein. En Bretagne, il y a aussi notre abeille noire, mais écotype Bretagne.
D'accord. Hein, d'accord, oui, tout à fait.
Vous comprenez, en Bretagne, il n'y a pas forcément les mêmes températures, le même climat, etc.
Ce sont des abeilles spéciales pluie.
C'est ça, oui.
Voilà, et nous, c'est spécial soleil.
Voilà. Tout à fait. Et donc, avec votre association, vous apportez aussi, vous intervenez aussi, vous faites des formations pour les gens qui souhaiteraient avoir une ruche et qui peuvent adhérer pour venir apprendre comment ça
voilà,
fonctionne.
Voilà, c'est un des buts de l'association, c'est de promouvoir, d'accompagner, de développer la pratique d'une apiculture de loisirs ou familiale. D'apprendre l'apiculture et former de nouveaux apiculteurs amateurs et faire reconnaître cette pratique comme un service rendu à la collectivité par son rôle bénéfique pour le maintien de la biodiversité. Imaginez-vous l'apiculteur professionnel, il arrive actuellement sur le Lavandin, il arrive avec 400 ruches sur le Lavandin. Les abeilles, qu'est-ce qu'elles vont butiner? Elles vont butiner, elles sont au bord du champ, elles vont butiner le lavandin. Le lavandin, c'est un hybride, il n'y a pas de pollen, donc la reine s'arrête de pondre.
Ah oui.
Voilà, bon, ça c'est un petit détail, mais ce qui est important, c'est que ces 400 ruches, ils vont aller sur le lavandin, mais ils ne vont pas aller un kilomètre derrière s'il y a une petite plante à polliniser. D'une part, ils ne la connaissent pas. Hein, puisqu'ils arrivent, c'est une race non autochtone. Hein, et d'autre part, ben, ils ont des milliards de fleurs devant eux, ils vont au plus facile. Quoi, voilà. C'est pour ça que c'est très, très, très important qu'il y ait un maximum de petits ruchers, entre guillemets, familiales ou familiaux, disséminés dans l'ensemble du territoire. C'est ces ruchers sédentaires qui maintiennent la biodiversité, c'est pas les professionnels. J'ai absolument rien contre les professionnels. Ils font un super métier. Ils ont beaucoup de mérite. Ils arrivent à faire vivre des familles avec ça. Ils ont des tas de problèmes, notamment, notamment la mortalité des abeilles, etc. Les effondrements de colonies et autres. Mais il faut reconnaître que en ce qui concerne le maintien de la biodiversité, ce sont les petits ruchers disséminés dans tout le territoire.
Et oui, et dont la présence est permanente, c'est-à-dire qu'ils sont dans des lieux qu'ils connaissent.
Voilà. Et là, autour de la ruche, tout est pollinisé. Voilà. Hein?
Alors, ça, ce sont tous ces points sur lesquels l'association peut intervenir. Hein. Vous effectuez aussi, je crois, des formations pour les enfants.
Oui, puisqu'on a parlé de sensibiliser les personnes, ben, on sensibilise aussi les enfants. On a la chance, on a fabriqué à la maison de la biodiversité à la Thomasine et Manosque une serre qui est totalement étanche aux abeilles. Sur la partie arrière de cette serre, il y a une porte. C'est par là qu'on fait rentrer des enfants, des écoles. Et devant, par l'intermédiaire d'un petit grillage inox, devant, il y a les ruches. Et je leur présente la vie des abeilles. Et ils voient des abeilles à 2 cm, sans aucun danger. Bon, bien évidemment, il n'y a aucun danger, mais enfin,
oui, avec les gamins,
on fait toujours attention.
Oui,
voilà. Dans notre association, dont elle deviendra membre, toute personne qui le désire pourra se former à la connaissance et à la manipulation des abeilles. Et en participant à ces activités, elle pourra bénéficier de tout conseil, aide et accompagnement dans la pratique de l'apiculture de loisirs. Alors je reviens, excusez-moi, mais pourquoi apiculture de loisirs? Cette apiculture de loisirs peut être qualifiée de familiale, je l'ai dit et je le redis, car nous ne souhaitons pas la cantonner dans un rôle de production, mais aussi la valoriser dans sa fonction ludique et dans son fonction environnementale, tout en prenant en compte le bien-être des abeilles ainsi que les préservations de l'environnement dans nos actes et nos pratiques. Enfin, il est essentiel que cette apiculture familiale de loisirs puisse prospérer, car en créant et en multipliant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de nombreux petits ruchers largement disséminés dans les espaces ruraux ou urbains, de façon sédentaire pour une large part, ces amateurs ou ces apiculteurs de loisirs concourent de façon importante à la pollinisation de la flore sauvage et cultivée. Cette présence fait d'eux des acteurs majeurs dans la préservation de la biodiversité et leur rôle devra bien un jour ou l'autre pris en compte et reconnu d'utilité publique.
Et est-ce qu'on sait à peu près, par exemple, sur le département, vous avez combien d'adhérents aujourd'hui et il y a combien de ruches
Alors, fin 2018, il y avait 98 adhérents. Alors, il y en a qui ont deux ruches, il y en a qui en ont quatre, il y en a qui en ont cinq, il y en a qui en ont un peu plus. Il faut savoir que lorsqu'ils viennent à MAPI, bon, on l'a dit, ils sont formés et quand ils retournent, quand ils installent leur ruche chez eux, ben, ils sont suivis. Hein. La formation continue.
S'ils ont un problème, ils peuvent vous appeler.
Voilà. Il y a un numéro de téléphone, c'est le mien. Donc, c'est le 06 72 93 83 13. 06 72 93 83 13. Je maintiens une permanence téléphonique et ils savent qu'ils peuvent m'appeler du lundi au dimanche inclus, pendant la journée, s'ils rencontrent
un problème.
D'accord. Et si je peux éventuellement les aider. Voilà.
Ça couvre l'ensemble du département, c'est-à-dire que il y a des adhérents qui sont dans le sud, vers Manosque, Sainte-Tulle, et puis d'autres du côté de Barcelonnette.
Tout à fait, ça couvre tout le département. Et bien au-delà, puisque on a le nord du 84, le 83, le 13. On a des gens de Berre, par exemple. Voilà.
D'accord. Ah oui.
C'est le département, mais avec tous les morceaux de département qui sont limitrophes. Je cherchais le mot.
On fait peut-être une petite pause avant de parler des problèmes plus spécifiques et puis peut-être des choses qu'on peut mettre en place chacun.
J'ai choisi les Bee Gees,
oui, à cause de Bee.
Bee qui veut dire abeille. Bee Gees, c'est les frères Jib. Et le B en anglais, c'est Barbara, donc Bee Gees.
Rien à voir, voilà.
Mais bon, nous allons écouter les abeilles avec Too Much Heaven.
Come back, I'm waiting in line. Love.
Voilà, on continue avec l'émission de ce jour sur le thème des abeilles.
Oui, alors sur ces questions donc de réponses à apporter aux problèmes généraux que peuvent à faire face les abeilles, donc on a dit il y a la loi qui a mis en place l'interdiction des pesticides, donc ça il va falloir surveiller que ça se passe bien et que effectivement elle soit concrétisée par les différentes mesures. Sur les apiculteurs professionnels, il existe aussi un label européen qui s'appelle Bee Friendly et qui vise à identifier et promouvoir des systèmes de production et des produits respectueux des pollinisateurs. Donc ce label est développé, il est géré par l'association qui a été créée à cette occasion, Bee Friendly, qui a été créée en 2011 et qui regroupe des organisations européennes d'apiculteurs. Mais les pesticides, les néonicotinoïdes, ne sont pas les seuls problèmes que rencontrent les abeilles. Donc là, vous avez aussi, Thierry...
Oui, mais le gros problème des abeilles, c'est pas une cause, c'est multifactoriel. Bon, alors c'est pas forcément comment dirais-je ? Bon, déjà, il y a le dégradement de son habitat. Hein. Avant, des fleurs à polliniser, il y en avait partout. Maintenant, il n'y a plus de haies. Il faut se rappeler, il faut remonter en 1950, le remembrement. Hein.
Oui.
Voilà.
Oui.
Ça joue son rôle. Hein. Il n'y a plus de haies. Donc, dégradement de son habitat, de son environnement. Alors les pesticides à outrance, pourquoi je dis à outrance? C'est parce que, par exemple, lorsqu'il y a un nouveau produit qui a une AMM, un nouveau pesticide qui a une AMM...
Autorisation de mise sur le marché.
On teste, enfin, ils testent uniquement la molécule active. D'accord? Et cette molécule active, il en ressort qu'effectivement, elle n'a pas d'effet létal sur l'abeille. Mais elle peut avoir un effet sublétal. Et c'est ce qu'on retrouve dans les néonicotinoïdes, donc des neurotoxiques qui agissent petit à petit et les abeilles, la colonie se dépeuple. Le problème, c'est que notre abeille, lorsqu'elle va butiner, l'agriculteur, il n'aura pas utilisé et déposé sur ses végétaux une molécule. Il va avoir un insecticide, il va avoir un herbicide, il va avoir un fongicide. Et là, il y a...
C'est l'effet cocktail.
C'est l'effet cocktail qui est vraiment détonnant pour les abeilles. Et ça, personne ne l'étudie. Alors, personne, c'est pas vrai. Il y a une unité, il y a l'unité de l'abeille, de son environnement à l'INRA, qui est dirigée par M. Yves Lecomte. Et ils font du super boulot, notamment le chercheur Monsieur Vidot, qui a bien mis en avant, par exemple, on a des problèmes de stérilité chez les mâles. Les néonicotinoïdes en sont pour beaucoup. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous avez des reines qui se font féconder, et puis au bout de 2 mois, off, elles ne pondent plus. Hein. Parce que tout simplement, elles pondent, mais l'œuf ne se développe pas parce que le sperme ne féconde pas, quoi. Il est stérile, quoi. On a le même problème chez les reines. Voilà. Donc on a vu que ça a commencé dans les années 50 avec le remembrement, destruction d'une grande partie de l'habitat des abeilles. En 1982, arrivée d'un acarien qu'on appelle le varroa.
Le varroa, oui, tu as été aussi.
Le varroa représente à l'heure d'aujourd'hui plus de 80% de la mortalité des ruches d'abeilles en hivernage. Hein, faut le savoir.
Et même sur les petits ruchers familiaux, où est-ce qu'elles ne sont pas plus solides vis-à-vis de certaines
attaques
comme ça?
Ben, c'est-à-dire que lorsque vous avez 4 ruches à vous occuper et à lui prodiguer des bons soins, on arrive à faire des choses que les professionnels n'ont pas forcément le temps de faire. Par exemple, on traite bien évidemment, mais aussi on compte, très important, on compte après traitement pour suivre l'infestation de varroa et pour voir si elle est létale pour la colonie. Hein. Si vous avez mis le ruche, c'est en pas forcément... Voilà. Donc là, on vient de parler de l'acarien varroa. En 2004, il nous est arrivé le frelon asiatique.
Dont on parle toujours.
L'année dernière, pour la première fois dans le département, il y a un rucher qui a été impacté à la palue. Hein, il y a 40 ruches qui sont passées à la trappe. Le frelon asiatique, c'est vraiment un gros, gros problème. Et c'est même un problème pour la population, puisque à proximité des ruches, il est totalement inoffensif. Par contre, à proximité de son nid, qu'on ne voit pas, puisqu'il se situe à entre 10 et 15 mètres dans les arbres et que les feuilles le cachent. Si vous passez dessous, c'est attaque systématique. Ça peut être une maman qui promène ses bébés ou ses enfants. Mais là, elle se voit arriver 15 ou 20 ou 30 frelons. Et le frelon asiatique, c'est un vespidé, donc il a un dard rétractable. Donc il pique, il repique, vous courez, et ça continue, et ça se finit aux urgences. Voilà. Même les pompiers ont été équipés de tenues spéciales pour détruire ces nids. Hein. Donc on est en train de mettre en place un maillage sur le territoire de pièges sélectifs. Hein, j'appuie bien sur sélectif. Les fameux pièges bouteilles là, en plastique, là, ils ne sont absolument pas sélectifs. Ils nous attrapent notre frelon de chez nous, notre Vespa crabeau. Et ben, quand il n'y a plus de Vespa crabeau, il y a une niche écologique qui est ouverte et elle est de suite colonisée par notre frelon asiatique. Sans parler que dans les bouteilles, on trouve aussi plein de mouches, plein de...
Oui, hein. c'est pas sélectif du tout. Quand
voilà.
Donc,
et quels sont ces pièges?
Alors, ces pièges, ben, ils ont été inventés par un apiculteur. Et, le GDSA 04 en a commandé. Ils vont être mis en place. On va essayer de mailler au maximum. Le but, c'est pas d'avoir 10 pièges à un endroit. Le but, c'est d'avoir un piège par rucher. Et certainement, ces pièges, on va les retrouver au niveau des ruchers, des apiculteurs de loisirs, puisque c'est eux qui sont disséminés dans tout le territoire. Hein, voilà. Et ils sont sélectifs. Ils n'attrapent que du Vespa velutina, qui est le nom latin du frelon asiatique.
Oui, vous dites piège sélectif, mais quelle est la différence entre ces pièges et les autres pièges pour le commun des comme nous, quoi, enfin comme moi particulièrement.
Eh ben, si vous voulez, c'est des cônes. On les appâte avec de la brèche d'abeille, c'est-à-dire des débris de cire avec de l'odeur du miel, mais ils n'ont pas accès. Donc, par exemple, une abeille peut rentrer dans ce piège, mais elle peut ressortir par l'intermédiaire d'une grille à rennes. Grille à rennes, c'est quoi? C'est simplement une grille qui laisse passer les abeilles, mais pas les rennes. Hein? D'accord. Une renne ne viendra jamais dans ce piège. Hein? S'ils rentrent d'autres insectes pollinisateurs, ils n'auront pas accès aux brèches non plus, donc ils ne reviendront pas. Et par contre, ils peuvent sortir aussi par les grilles à rennes. Voilà. Et il est sélectif par rapport à notre Vespa crabeau. C'est simplement une histoire de dimension. C'est-à-dire que notre frelon commun, il est beaucoup plus gros que le frelon asiatique. Hein? Donc il ne peut pas rentrer. Et donc on ne l'attrapera pas. Voilà.
Même système que les filets à poissons, avec des mailles qui permettent à certains d'être attrapés et pas aux autres.
Voilà.
Alors, peut-être on est un peu limite. Je voulais quand même qu'on parle juste 30 secondes des petites solutions ou des bonnes pratiques qu'on peut avoir. Alors, je dirais, bon, par exemple, sur le département, il y a un choix qui a été fait de diminuer les désherbants le long des routes, de ralentir le fauchage pour qu'il y ait des fleurs plus fréquemment. Mais cette idée d'avoir chacun sa ruche chez soi, c'est quand même une belle chose. Donc vous pouvez prendre contact, adhérer à l'association et avoir une ruche et être suivi et être aidé dans ce sens. Mais vous pouvez aussi planter des fleurs mellifères, par exemple.
Tout à fait, tout à fait.
Donc là, même chose, l'association AMAPI, je suppose, pourra vous conseiller sur quel type de plantes mettre dans votre jardin.
Oui. Oui, tout à fait. Lorsqu'on a des abeilles, automatiquement on se met à semer et à planter. Voilà.
Bon, je crois qu'on aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais il me semble qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, merci Thierry de votre présence.
Merci à vous.
Et puis au mois prochain probablement pour nos auditeurs. Merci.
Allez, merci. Au revoir.